accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. 100 fois décalé et reporté, le Brexit entre donc très pratiquement en vigueur ce 1er janvier. La fin de l'aventure européenne pour les Britanniques, négociée dans un épais document de 1246 pages, et le début d'une nouvelle relation spéciale entre l'île et le continent. Concrètement, rien ne sera plus vraiment comme avant pour les entrepreneurs, les camionneurs, les étudiants, les expatriés. Certes, le Royaume-Uni garde l'accès à l'immense marché européen de 450 millions de consommateurs, tout comme les Européens pourront encore commercer sans quotas ni droits de douane avec le Royaume-Uni, mais le retour de la frontière n'est pas qu'un petit symbole. Exit le marché unique, il y aura donc des formalités douanières de part et d'autre de la frontière, des inspections phytosanitaires aussi pour les aliments et les animaux, et qui dit contrôle parle donc de risque d'embouteillage. Le gouvernement britannique a promis 300 millions de livres pour aider les ports à s'adapter. En ce 1er janvier, la circulation devra être tranquille. Mais dans la région du Kent, où se trouve la très fréquentée autoroute M20, on s'est préparé au pire. Les autorités britanniques ont travaillé sur des scénarios de bouchons de 7000 camions. C'est l'opération Brock et ses barrières mobiles qu'a suivi pour nous Marie Billon.
Transformer l'une des autoroutes les plus importantes du pays en parking géant pour camions sans trop gêner la circulation des usagers, c'est le but de l'opération Brock. 2000 poids lourds pourront stationner sur le bitume en attendant que leur chargement et leurs papiers soient inspectés à la frontière pour passer de l'Angleterre au continent. Ce sont ces contrôles, inutiles tant que le Royaume-Uni était dans le marché commun de l'Union européenne, qui ralentissent les routiers. 7000 camions pourraient être coincés avant d'arriver à Douvres pour traverser la Manche, selon les estimations du gouvernement britannique. Brendan Chilton est un élu local de la région du Kent, là où se trouve l'autoroute et la ville portuaire de Douvres. Il explique le but de cette opération Brock.
Il ne faut pas que toutes les voies de l'autoroute soient bloquées par des poids lourds. Il faut laisser de l'espace aux autres usagers pour circuler.
Concrètement, des blocs en béton vont donc séparer la portion de l'autoroute allant de Londres à Douvres en deux voies double sens. C'est là que les voitures individuelles des Britanniques rouleront. De l'autre côté, les trois voies seront réservées aux camions. Le but de l'opération Brock est que cette barrière soit amovible, bien qu'en béton. Elle doit pouvoir être installée et enlevée rapidement en fonction des besoins. Mais Adrian Jones, représentant des routiers pour le syndicat Unite, est dubitatif.
Une barrière en métal demande un mois d'installation. Cette barrière de béton ne prend que 8 heures. Mais franchement, je pense qu'une fois qu'elle sera installée, elle restera en place pour des semaines, voire des mois. Et ça veut dire de gros retards pour le transport commercial, mais aussi des embouteillages et de grosses perturbations pour le trafic local.
2000 camions pourront se garer sur la M20 en attendant d'avoir chargements et papiers inspectés à la douane. 5000 autres poids lourds devraient aussi avoir accès à des parkings géants installés à plusieurs endroits dans la région du Kent. Une application sur le téléphone des conducteurs leur donnera le feu vert pour se rendre au poste frontière. Reste enfin le problème des voitures particulières qui d'habitude roulent sur trois voies dans chaque sens sur la M20 et n'auront plus accès qu'à une voie dans chaque sens. De beaux embouteillages pour eux aussi en perspective.
Et c'est une des grandes victimes de cet accord avec le Royaume-Uni. Londres sort du programme d'échange étudiant Erasmus. C'est pourtant sans doute un des plus beaux succès européens qui a permis en 30 ans à plus de 9 millions de personnes de faire des échanges. Or, Erasmus, les étudiants seront considérés comme des internationaux. Le prix annuel des frais universitaires, qui pouvait déjà atteindre 10 000 euros, pourrait doubler, voire tripler. Écoutez ces étudiants hongrois, italiens ou français que nous avons interrogés. Il leur faudra trouver, à partir de septembre 2021, d'autres destinations ou bien payer très cher.
Je m'appelle Bolaj, j'ai 18 ans, j'habite à Budapest et je suis en terminale. J'ai été accepté à l'université de Durham, mais avec le Brexit, les frais d'inscription ont triplé, 30 000 livres par an. Et je ne peux pas prendre un prêt étudiant et m'endetter jusqu'à la fin de ma vie. Alors j'essaie d'avoir une bourse, il y a sûrement de très bons étudiants qui n'auront plus les moyens d'aller là-bas. C'est une perte pour les facs anglaises. Moi et mes copains, on est vraiment déçus. C'est rageant de voir que ceux qui étaient en terminale l'an dernier, on peut partir en Angleterre et pas nous. On est jaloux. Pas de chance, c'est sur nous que le Brexit est tombé.
Je m'appelle Matteo, j'ai 23 ans et je suis italien. J'ai fait des études à l'université de Ferrare, ma ville, d'où je suis sorti diplômé en sciences et technologies de la communication. L'an dernier, j'ai eu la grande opportunité de faire un semestre à l'université de Leeds en Angleterre grâce au programme Erasmus. À l'époque, nous, étudiants européens, étions encore considérés comme les étudiants britanniques. Après ce semestre, j'ai décidé de poursuivre mon cursus à l'université de Leeds, mais malheureusement, la pandémie et le Brexit ont fortement compliqué mon parcours. Le vrai problème à présent est économique. Tout a changé. Par exemple, le coût d'un master a doublé et l'on n'a plus accès aux aides d'État britanniques qui, jusqu'il y a encore un an, étaient garanties sous forme de prêts. D'un point de vue administratif, c'est très compliqué aussi. Il faut maintenant un visa et il va falloir payer une quote-part pour une couverture santé, des coûts qui se multiplient. Malgré la difficulté que pose le Brexit, mon objectif est toujours de poursuivre mes études en Angleterre et d'y être diplômé. Mais je dois admettre que ce Brexit a été un coup très dur pour nous étudiants qui avons l'ambition de faire une carrière à l'étranger.
Je m'appelle Virginie Lenoir, j'ai 26 ans, je suis étudiante à l'Université Lyon 2 en information communication. Je vais partir le 16 janvier dans la ville de Newcastle en Angleterre. Là, concrètement, les grosses démarches à faire, c'est trouver une assurance privée. Parce que normalement, on est assuré avec la carte européenne pour la santé. Sauf que on a appris que la carte européenne n'était plus valable là-bas à partir du 1er janvier. Donc, c'est un peu compliqué, oui, comme période.
35 000 étudiants européens Erasmus venaient chaque année étudier au Royaume-Uni et 17 000 Britanniques allaient sur le continent. Pas rentable, a estimé le gouvernement de Boris Johnson. Désormais, les échanges seront toujours possibles, mais les frais ne seront pas pris en charge par l'agence européenne. L'impact sera terrible aussi pour les universités britanniques. Nick Hellman, du Centre de réflexion sur l'enseignement supérieur, l'EPI, a fait part de ses craintes à Marie Billon.
Most predictions are that
la plupart des experts pensent que le nombre d'étudiants européens va être divisé par deux dans le court et moyen terme. Nous avons fait une étude et nous estimons en effet qu'il y aura 30 000 nouveaux étudiants européens en moins chaque année. Mais certains sont plus optimistes et rappellent que les universités britanniques sont de très grande qualité et que les jeunes veulent apprendre l'anglais. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que même si, et je l'espère, les étudiants européens continuent de venir, il y aura moins de diversité. Ils proviendront des mêmes milieux aisés, par exemple.
Et pour les Britanniques, le gouvernement veut instaurer un nouveau programme international intitulé Alan Turing, du nom du célèbre mathématicien britannique. Mais pour l'instant, l'heure est à la déception pour Taya et Laura, une étudiante et une mère britannique, interrogée par Sofia Katsenkova.
Quand j'ai entendu l'annonce, j'étais vraiment déçue. Je ne pensais pas que le gouvernement allait se retirer d'Erasmus parce que c'est un programme d'échange vraiment très important. Il est génial, ça permet aux étudiants de partir à l'étranger et de ne pas avoir à se soucier de l'aspect financier.
Le gouvernement britannique ne pourra jamais reproduire un programme d'échange comme Erasmus car les bourses sont financées par 27 pays européens. Comment est-ce qu'un seul pays pourrait débloquer autant d'argent? Et le nouveau programme d'échange Turing n'est pas encore en place, donc mes fils ne pourront pas en bénéficier immédiatement. Tout le principe d'étudier en Europe, c'est qu'on peut découvrir différentes cultures pour pas cher et sans voyager trop loin de sa famille.
Et les autres grands perdants de ce Brexit, ce sont les expatriés britanniques en Europe. Car avec cette sortie de l'UE, c'est aussi la fin de la citoyenneté européenne. On compte entre 350 et 500 000 Britanniques en Espagne, des retraités mais aussi des actifs, des couples binationaux, eux aussi inquiets des choix qu'ils devront faire ou qui leur seront imposés. Ceux qui se sont installés avant le 1er janvier pourront continuer à rester vivre sur la péninsule ibérique selon les conditions négociées avec leur pays d'accueil. Mais ce 1er janvier est aussi le début d'un nouveau système d'immigration à points au Royaume-Uni. Pour les Européens, il faudra justifier de revenus, d'une bonne maîtrise de l'anglais. Et les conjoints espagnols ne sont pas tous dans ce cas. Reportage en Espagne, signé Diane Cambon.
Sue Wilson vit en Espagne sur le littoral méditerranéen depuis 13 ans et dirige l'association Bremain qui s'est formée dans un premier temps pour s'opposer au Brexit. Aujourd'hui, cette retraitée conseille les Britanniques désorientés sur leur choix de vie.
So, the biggest one, the most important one for many is the loss of freedom of movement.
Le plus embêtant et le plus problématique du Brexit, c'est que notre liberté de mouvement va se réduire. Évidemment, on est très bien ici en Espagne, on se sent bien, mais si on veut bouger, cela va être beaucoup plus compliqué et plus cher. Pour moi, personnellement, cela ne va pas changer grand-chose, car je vais rester ici le reste de ma vie. C'est ici, chez moi, je n'ai pas du tout envie de revenir au Royaume-Uni, car je ne reconnais plus mon pays. Mais je sais que si je veux aller en Angleterre, voir ma famille de temps en temps, cela va être moins simple et très cher.
Avec quelques 6000 membres, l'association Bremen a travaillé d'arrache-pied ces derniers mois pour aider les Britanniques qui voulaient faire le grand saut en s'installant à temps plein en Espagne dans leur résidence secondaire.
La majorité de ceux que je connais ont modifié leurs plans et sont venus ici plus tôt que prévu. Ils ont des résidences secondaires et se sont dépêchés de régulariser leur situation avant la fin de la transition, car après cela va être plus compliqué de déménager dans le futur. Beaucoup d'Anglais sont venus ces derniers mois pour être sûrs d'être légaux et en sécurité. Les retraités doivent venir ici le plus tôt possible, car après, ils ne pourront plus bénéficier de la même façon de leur retraite. Actuellement, elles sont indexées sur le coût de la vie, mais après, il n'y aura plus le même statut.
Claire, âgée de 45 ans, a décidé de faire le voyage inverse. Son entreprise ne permet plus à partir de janvier aux employés de vivre et pratiquer le télétravail hors des frontières britanniques. Dans un premier temps, elle va devoir rentrer à Londres chez ses parents et délaisser Madrid, explique-t-elle devant une tasse de chocolat.
Dentro de poco, que voy a tener que decidir si...
Je vais devoir décider si à long terme je vais vivre ici ou là-bas. Je pars avec mon fils qui a le passeport espagnol et anglais. Mais le problème va se poser pour mon copain, le père de mon fils. Il pourra venir quelques jours pour les vacances, mais s'il n'a pas de contrat de travail en Angleterre, il ne pourra pas rester.
Une autre question légale, la taraude. Quels seront ses droits en Espagne ?
Cela fait 5 ans que je vis ici. Mon fils est espagnol et mon copain aussi. Et j'ai ma maison à moi. J'espère que l'on ne va pas me jeter dehors. Tout cela va être beaucoup plus compliqué, mais je ne sais pas encore comment.
Sujet de discussion au sein de sa famille, Claire parle désormais du Brexit avec résignation.
Dans ma famille, je n'en parle plus. Ma sœur était pour et mon père, on ne sait plus trop ce qu'il pense. Mais moi, j'ai décidé d'accepter la situation telle qu'elle est. On ne peut plus rien faire et je vais m'adapter à la nouvelle situation dès qu'elle se présentera. On n'a pas le choix.
Pour les Espagnols, la nouvelle donne risque aussi d'être une catastrophe financière à long terme. Les Britanniques sont les touristes les plus nombreux en Espagne. Près de 19 millions d'entre eux viennent chaque année se dorer au soleil ibérique. Or, des conditions d'entrée plus strictes et une dévaluation de la livre pourraient faire baisser le nombre de voyageurs. Une étude d'Euromonitor International parle d'une perte potentielle de revenus d'€1 milliard pour l'Espagne.
La liberté de circulation n'est plus, il va falloir à nouveau montrer son passeport et demander un visa si l'on veut rester plus de 3 mois. La procédure touchera tous les Britanniques voyageant en Europe et tous les Européens entrant au Royaume-Uni, sauf les Irlandais. Bonjour Emeline Vin, vous êtes notre correspondante à Dublin, c'est une particularité. Les deux pays ont conclu des accords pour la libre circulation bien avant l'existence du marché commun ou de l'Union européenne.
L'Irlande et le Royaume-Uni partagent une zone de voyage commune, la Common Travel Area ou CTA. Ce qui veut dire techniquement qu'un Irlandais n'a pas besoin de présenter son passeport en arrivant à Londres par exemple, ou réciproquement un Écossais qui arriverait à Dublin. Comme son nom l'indique, la CTA permet de voyager mais aussi de travailler, d'étudier, de bénéficier de certains services publics dans l'autre pays.
Et donc, Emeline, le Brexit ne changera rien.
Et non, car la CTA est bien plus vieille que l'Union européenne elle-même. Elle ne dépend aucunement de l'appartenance de l'un ou de l'autre pays à l'UE. Dans les faits, ça fait des siècles que les deux îles voisines partagent une zone de voyage, puisque l'Irlande a longtemps appartenu à l'Empire britannique. À son indépendance, en 1922, la liberté de mouvement a été maintenue. Celle-ci est officielle, il y a une loi pour la garantir depuis 1925. Dans le cas du Brexit, c'est plutôt commode, vu qu'au moins 430 000 Irlandais vivent au Royaume-Uni et que les liens culturels et linguistiques entre les deux pays sont très forts.
Et pour aller tranquillement au Royaume-Uni, les Européens n'auraient qu'à passer par Dublin ?
Ce serait beau, mais la CTA ne bénéficie qu'aux citoyens des deux pays. Donc à moins que vous ne soyez irlandaise ou britannique, pas d'exemption pour vous. Exclus aussi de la CTA, les biens, les produits irlandais ou britanniques ne pourront pas traverser la mer d'Irlande sans se soumettre à des contrôles, ce qui aurait épargné bien des discussions aux négociateurs.
Et si le Brexit est une catastrophe pour certains, dans d'autres pays européens, on se frotte les mains. À l'image de la ville allemande de Görlitz, située à la frontière germano-polonaise, qui a lancé une campagne de séduction auprès des Polonais installés au Royaume-Uni. Les explications depuis Berlin de Julien Méchaussy.
Time to come home. Il est l'heure de rentrer à la maison. C'est le message que certains Polonais du Royaume-Uni ont trouvé dans leur boîte aux lettres juste avant Noël. L'expéditeur, Görlitz, ville de l'extrême est de l'Allemagne, dans le Land de Saxe, est séparée par le fleuve de la Neisse de la ville polonaise de Zgorzelec. Un message accompagné de spécialités culinaires de la région, pain d'épices et stollen, gâteau traditionnel de Noël. Une opération de charme répétée pour la seconde année consécutive avec un objectif ambitieux, attirer l'attention des quelques 900 000 citoyens polonais du royaume sur les avantages de la ville. Loyers abordables, magnifique centre historique rénové, salaire bien plus élevé qu'en Pologne et proximité avec leur terre natale. Seul le pont Jean-Paul II sépare les villes de Görlitz et de Zgorzelec. Car Görlitz et sa population vieillissante a besoin de main-d'œuvre, surtout dans le secteur informatique et le secteur médical. L'hôpital de Görlitz s'était même offert l'année dernière un encart publicitaire dans un grand quotidien britannique en anglais et en polonais à l'attention de médecins et infirmières expatriés rentrés à la maison. Des actions bien loin d'être anecdotiques et soutenues par un site internet qui prodigue un grand nombre de conseils pratiques, comme par exemple sur l'assurance maladie ou les questions fiscales. Et Görlitz n'est pas la seule ville allemande à vouloir profiter du Brexit. Francfort, capitale financière du pays, drague, elle, ouvertement les salariés du secteur bancaire londonien.
Et puis on terminera cette émission spéciale Brexit avec l'Italie qui espère bien attirer les plus riches Anglais. Depuis le référendum sur le Brexit de 2016, les installations de Britanniques à l'étranger ont bondi d'un tiers et l'Italie en a profité. À Milan, Franceline Beretti.
Plus de 5 millions d'étrangers résident en Italie. Les Britanniques ne sont qu'une petite partie d'entre eux. Environ 30 000, essentiellement en Lombardie, dans le Lazio, la région de Rome, et en Toscane. Mais depuis le oui au Brexit, ils sont 1000 par an à choisir de s'installer dans la botte. Ce sont de nouveaux résidents parfois très intéressants pour les caisses de l'État. Depuis plus de 3 ans, la loi italienne incite les riches étrangers à transférer leur résidence fiscale dans le pays. Les grosses fortunes paient un impôt forfaitaire de 100 000 euros par an, au lieu d'un impôt sur le revenu de 43%. L'année dernière, la mesure a rapporté un peu plus de 40 millions d'euros à Rome. Mais ça n'est pas là-dessus que l'Italie espère toucher le plus. L'objectif est surtout d'attirer les consommateurs de produits de luxe et de profiter de la TVA pour renflouer les caisses. Environ 400 pixous, comme les appelle la presse italienne, ont bénéficié de cette mesure l'année dernière. Parmi eux, beaucoup de Britanniques inquiets du Brexit, avance le journal The Economist. Et depuis 2019, la fiscalité italienne s'est encore donné d'autres moyens pour attirer de nouveaux habitants. Sa cible, cette fois, ce sont les retraités. S'ils s'installent dans une petite ville du sud de l'Italie, leurs pensions et les autres revenus sont taxés à 7% les premières années. Une mesure censée faire concurrence au Portugal, qui attire les retraités de toute l'Europe depuis quelques années, dont 40 000 Britanniques.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Laurie Plisson et Nicolas Benitor. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique podcast Accent d'Europe, et sur les réseaux sociaux. On se retrouve dès lundi.